Vous comprenez? Moi, dans le fond, ça m'arrange de te les boucher. Parce que de ma nature, je suis plutôt sensible. J'ai jamais fait de mal à une mouche. J'aime bien les Belges, j'ai une passion pour les animaux. Tandis que les bouchers, eux, ben, ils les tuent, les animaux. Alors moi, je tue les bouchers. Vous comprenez? Et puis, je leur prends leur argent aux bouchers. Puisqu'ils tuent les animaux. Et que moi, je les aime, les animaux. J'ai pas droit à mort, vous comprenez? Un peu d'argent. Un boucher de temps en temps. Un peu de soleil. Et un peu d'amour.
www.libradio.org.
Voilà, voilà. Donc, je le disais à nos invités, on en profite parce qu'on a des jingles vegan qu'on utilise très peu. Et c'est bien dommage. Alors là, du coup, aujourd'hui, on se fait plaisir. Alors, bienvenue à vous. Bienvenue, Malena. Bienvenue, Pia.
Merci.
On est ravis de vous recevoir parce qu'effectivement, les sujets vegan, on essaie d'en faire un maximum. Alors là, il se trouve que comme il y a eu la marche, on a pu recevoir Joseph, qu'on le reçoit de temps en temps, quand il peut. Mais on a du mal. C'est encore un sujet qui, voilà, assez rare finalement, je trouve. Et on le regrette en tout cas à la radio. Donc on est vraiment ravis de vous recevoir toutes les deux. Si vous êtes d'accord, on fait comme ça. Une présentation de chacune à l'aune de son projet et de ses activités. Et puis ensuite, on fera une mise en commun et on parlera véganisme, antispécisme un peu en même temps. De nouveau, je suis désolé, mais on est toujours à chaque fois obligé de repréciser les concepts parce que voilà, c'est à chaque fois d'autres personnes qui écoutent. Et puis, bah, antispécisme, évidemment, ça peut paraître évident, autant que ça peut paraître un petit peu sibyllin, un petit peu, voilà. Alors, on y va comme ça, ça vous va? Ouais. Ok. Alors, Malena, à toi la parole, si tu voulais bien te présenter toi un petit peu comme ça. Et puis, ce projet justement de crèmerie vegan ici à Genève.
Alors ce projet, il a démarré donc il y a 3 ans. Je tenais une petite boutique de thé dans laquelle on avait installé un petit frigo et puis mon papa faisait ses fromages à la maison. Donc on en vendait comme ça en petite quantité à travers le frigo jusqu'à ce qu'on nous dise d'arrêter parce qu'on était hors la loi. On faisait de la vente sauvage et illégale. Donc on nous a demandé de nous mettre en règle et c'est comme ça qu'on a... Pardon. Et c'est comme ça qu'on a on avait un savoir-faire, on avait des gens qui voulaient manger ces fromages végétaux, donc on s'est dit voilà, on a un savoir-faire, on n'a pas une thune en poche, donc on a lancé un financement participatif il y a un an, un peu plus d'un an, et qui a abouti avec succès. Et c'est comme ça qu'on a ouvert il y a 8 mois la première crèmerie vegan en Suisse romande.
D'accord. Techniquement, après, on va te demander qu'est-ce qu'un fromage végétal et puis comment est-ce que on le fabrique, est-ce qu'on peut le fabriquer. Mais avant cela, je voulais te questionner sur comment est-ce que les personnes ont reçu ce projet-là. Quand un commerce s'installe, et bien évidemment, la population locale, au moins par curiosité, j'imagine, y accourt. Et alors voilà, qu'as-tu eu comme première réaction des personnes?
Alors, à la présentation des projets, il a fallu, pour récolter tout cet argent, il a fallu partir faire des dégustations pour convaincre les gens. Et ce sont les dégustations qui ont pu convaincre les gens. On a beaucoup eu de curieux, de personnes curieuses, qui venaient à la suite d'un article positif. Mais ce qu'on constate à la crèmerie depuis qu'on l'a ouvert, c'est qu'on s'attendait à avoir une majorité une clientèle végane ou intolérante. Et la majorité est quand même omnivore. Donc, ils viennent d'abord par curiosité et ils viennent aussi avec le désir de manger plus responsable, un peu plus éthique. Donc voilà, il y a un pied qui commence à être mis un peu dans l'engrenage. Donc l'accueil est bien reçu quand ils dégustent, c'est-à-dire quand ils ont le plaisir de manger. Et moi qui avais commencé à militer pour l'antispécisme un peu en tractant dans la rue, je me suis quand même aperçue qu'on parle beaucoup plus facilement d'un veau qui est séparé de sa mère en ayant du plaisir à manger quelque chose qui apporte du plaisir justement, plutôt que de venir faire culpabiliser sans proposer d'alternative. Alors moi j'ai quand même été un peu déçue en tant que militante de voir que les gens ajustent une philosophie par rapport à leur appétit et qu'ils n'ajustent pas l'appétit par rapport à une philosophie. Mais j'observe aussi les humains comme j'observe les animaux et je me dis si c'est comme ça qu'on peut aussi les amener à convaincre, moi je dois composer avec. Mais l'accueil est plutôt positif.
Est-ce qu'au sein même, dans le local de la crèmerie, y a-t-il justement des petits flyers ou des petites informations?
Oui, bien sûr.
Ouais, c'est pour ça que j'ai osé la question. C'est que je me suis dit, il y a certainement déjà des flyers de PEA.
Il y en a beaucoup, voilà. J'en ai jamais assez, selon moi, mais il y a évidemment plein de cartes et de flyers de PEA pour sensibiliser quant à l'antispécisme. Parce que notre démarche, bien sûr, alors elle touche un peu tout. Hein, elle touche l'environnement, la santé, l'économie. Mais la démarche première de la crèmerie, c'est les animaux.
Alors, on va revenir à cela. Mais juste avant ça, j'aurais voulu te demander demander encore. Vous faites crèmerie, donc vous produisez vos fromages et service traiteur, c'est-à-dire que si des personnes souhaitent organiser une petite réception ou quoi, ils peuvent commander des choses chez vous?
Alors, ils peuvent, mais c'est encore compliqué de répondre à toutes les demandes. Donc, on essaye de faire un peu au mieux parce qu'on a démarré avec évidemment plein d'imprévus. C'est-à-dire que le local, avec les normes, les exigences sanitaires, alimentaires, ont demandé beaucoup plus de dépenses que prévu. Donc, on a dû raboter sur le matériel, ce qui ralentit considérablement le rythme de production qui était prévu initialement pour rembourser toutes les factures de démarrage. Donc, on est encore sur un démarrage un peu bancal et on n'a pas encore enclenché le cercle vertueux, mais on y arrive petit à petit.
Oui, et puis je crois qu'il y a une règle qui dit qu'un commerce ou enfin un truc, une affaire privée met au moins une année, enfin en tout cas dans la première année on se paye quasi pas.
Je confirme.
Je confirme, ok, d'accord. On va aussi revenir sur le fait de dire est-ce que des personnes peuvent aider, est-ce que vous allez reproposer pourquoi pas un We Make It ou des choses comme ça. Mais voilà, j'aimerais pour vous interroger toutes les deux, pour vous questionner, pardon, vous questionner toutes les deux en ce qui concerne le fromage. En quoi, selon vous, le végétarisme est-il incomplet dans cette lutte pour l'antispécisme? Et en quoi justement le fromage et le lait et les œufs et toutes ces substances-là sont au cœur de la question? Je ne sais pas qui aurait envie de répondre.
Je pense que Pia peut répondre.
On fait moite-moite, si vous voulez. Alors c'est Pia qui répond, qui est donc porte-parole de PEA pour l'égalité animale.
Voilà, moi je ne suis pas vraiment spécialisée dans la question du végétarisme et du véganisme, parce que PEA pour l'égalité animale, c'était justement un projet de sortir en fait des discours qui tournent tout le temps autour de la consommation individuelle et puis d'avoir vraiment une vision plus politique sur la question. Néanmoins, c'est évident que dans les pratiques individuelles, ça compte aussi, et que au quotidien, on est confronté au fait que absolument tous les produits qui nous entourent sont composés de choses qui sont issues de la souffrance des animaux. Donc le lait végétal, je pense que c'est une très bonne alternative. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même important parce que pour faire du lait de vache, il faut exploiter des vaches et des veaux. C'est une vache qui sera inséminée artificiellement plusieurs fois au cours de sa vie, son veau qui lui sera arraché systématiquement et qui partira à l'abattoir. Donc les souffrances qui sont infligées aux animaux pour faire des produits laitiers, c'est vraiment inouï en fait. Donc
on peut selon toi clairement l'assimiler à de la viande du coup, aux souffrances qui sont provoquées par l'industrie de la viande.
Oui, peut-être que ça fait moins de victimes en termes de nombre, mais en tout cas en termes de
souffrance et d'intensité, c'est la même chose.
C'est vraiment de la folie. Même en Suisse, on a l'impression que les vaches sont très bien traitées et tout. Alors évidemment, on peut trouver pire, mais il n'empêche que tous ces animaux finissent à l'abattoir et on les garde que tant qu'ils sont productifs. Donc d'un point de vue éthique et politique, c'est vraiment une catastrophe la production laitière.
Et alors, comment est-ce qu'on fabrique un fromage justement végétal ?
Mais alors, toutes les pratiques sont les mêmes qu'en fromagerie classique. C'est juste la matière première qui va changer et l'étape de la présure qu'on ne retrouve pas chez nous. Mais pour le reste, c'est exactement la même chose. On part nous, notre crèmerie travaille à partir de noix de cajou parce que c'est quand on mange la noix de cajou et qu'on la compare à une amande et une noisette, c'est celle qui a qui apporte le plus de onctuosité, qui est la plus laiteuse en bouche. On part avec la noix de cajou et on part de cette matière première. Et après, tout le travail, c'est de l'affinage, c'est de la température, des précisions. C'est tout un travail d'affinage.
Voilà, donc c'est un vrai travail artisanal. Voilà. Que vous avez, donc j'imagine que c'est moult tests qui vous ont conduit à dire on va entrer sur cette variété-là, sur ces...
Tout D'accord. à fait, oui.
Très bien, très bien. Tu parlais de pressure. Par quoi remplace-t-on la pressure, qui est, si j'ai bien compris, dans le fromage animal, une substance qui permet au lait de cailler, je crois.
Il n'y a pas besoin de. C'est vraiment qu'un travail de fermentation. C'est de la lactofermentation. Voilà. Et on rajoute aussi des ferments qui sont issus de l'industrie laitière, mais qui sont exempts de produits animaux, donc on s'assure qu'ils soient bien véganes.
Est-ce que c'est extrêmement compliqué de produire des fromages végétaux? Ou pas tant que ça?
C'est pas si compliqué, c'est vraiment un travail de précision et de patience, parce qu'il faut beaucoup de patience pour faire des petites pâtes dures. On peut attendre 1 à 3 mois d'affinage. Parfois, on a eu des fromages pendant nos périodes de test qui allaient jusqu'à 5-6 mois d'affinage, pour des bleus par exemple.
Il y a des bleus aussi.
Alors pour le moment, on a dû arrêter les bleus, d'accord, parce que les ferments de bleus contaminent tout le reste, donc on attend d'avoir un autre local pour pouvoir en produire.
D'accord. Ok, les bleus sont 10 heures. Comment explique-t-on le fait qu'il n'y ait quasiment pas, alors tant mieux pour les crèmeries comme la tienne, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas une production un petit peu plus conséquente en termes de quantité également? Comment est-ce que vous expliquez ça toutes les deux, Malena, si tu... je veux dire, c'est une volonté. Parce que si, c'est pour ça que je te demandais si c'était si compliqué que ça. C'est-à-dire que est-ce qu'il manque une volonté politique? Est-ce qu'il y a des lobbies qui font que ça n'est pas conseillé ou avec des recommandations qui iraient contre? Enfin...
Je pense que le fromage, c'était l'étape un peu la plus compliquée parce que des viandes, l'alternative à la viande, on en trouve déjà beaucoup et des très convaincantes. Le fromage, c'était un peu une étape un peu plus difficile, je pense, à franchir. Maintenant, les gens aussi étaient étonnés, ne savaient pas qu'on pouvait partir d'oléagineux pour faire des fromages végétaux. Je précise aussi qu'on dit fromage, on n'est pas censé appeler ça fromage, donc on a appelé ça affiné puisque ça correspond au travail qui se passe dans les laboratoires, c'est de l'affinage, mais je pense que c'était pas assez connu. Maintenant ça commence à être reconnu, donc les gens essayent, s'y mettent, donc ça commence à prendre. Et on voit aussi que l'industrie laitière, l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie spéciste, qui exploite les animaux, commence à voir aussi qu'ils perdent aussi des consommateurs, je pense, donc ils commencent eux aussi à s'y intéresser.
Ah, d'accord. Ah, donc là ça devient peut-être que là on est au moment charnière.
Mais en fait, le lien avec la politique, pour moi, il est économique. On voit que tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'abandonnent pas l'exploitation des animaux, c'est que c'est rentable quelque part et que ça procure un plaisir personnel, individuel, qu'on n'a pas envie de perdre. Mais le jour où on comprendra que l'industrie végétale, enfin, que toute la production végétale peut elle aussi être rentable, peut-être qu'on s'y intéressera davantage, et c'est ce qui est en train de se passer. Mais donc pour moi, c'est vraiment l'aspect économique qui rentre en politique, parce que le projet, mon rêve personnel, enfin, qu'on partage avec l'équipe, c'est de récupérer disons, l'économie qui partirait dans l'industrie laitière. Là, on n'est pas du tout encore dans la position où on peut parler d'action ou de bénéfices, mais dès lors on pourra faire des bénéfices, bien sûr qu'il y a un pourcentage qui va aux associations, qui va les soutenir, qui va aussi réinjecter de l'argent dans un circuit éthique qui correspond à nos valeurs. Donc je pense que les industries, elles ont vraiment un rôle aussi, enfin les commerces ont un rôle important politique par rapport à l'économie.
Tout à fait, certainement. Antispéciste. Ouais. Alors Pia, tu voulais commenter.
Oui, alors effectivement, tu parlais tout à l'heure de pression qu'il y avait à l'encontre des alternatives végétales. Je pense qu'on peut quand même ajouter qu'en Suisse, on a vraiment comme patrimoine national presque les produits laitiers, l'élevage, les pâturages. Et en fait, il y a tout un imaginaire nationaliste qui alimente en fait l'idée que les animaux sont bien traités dans les fermes, que le lait suisse, c'est quelque chose de très bien, et que c'est quelque chose qui nous ressemble. Donc bref, il y a vraiment un discours assez hallucinant, en fait, un mix de nationalisme, de traditionnalisme assez fou. Donc je pense que ça crée quand même des résistances. En Suisse, à partir du 19e siècle, il y a eu... Enfin, quand on a commencé à réfléchir à la construction du mythe national, on a vraiment pensé le mythe national en impliquant l'élevage, le pâturage et tout ce qui est issu en fait de l'exploitation laitière a tout de suite été mis en avant. En fait, ils ont dit ah ben tiens, ça fait partie du patrimoine national. Puis à partir de la moitié du XXe siècle, ce qui est intéressant, c'est que après la Deuxième Guerre, les productions laitières avaient été confrontées face à un problème de surproduction parce que les vaches étaient beaucoup trop produisaient trop de lait dont on ne savait pas quoi faire. Et à partir des années 50, justement, c'est l'industrie laitière qui s'est emparée, en fait, de cette image d'Épinal et qui s'est emparée du mythe national autour des produits laitiers comme patrimoine national pour en faire un argument marketing, en fait. Et c'est là qu'on a commencé à voir pas mal de campagnes de publicité pour le lait, dans les années 50, on avait commencé à mettre en place des bars à lait à Lausanne, par exemple. Il y avait des bars à lait, c'était un truc hyper à la mode. Donc il y avait vraiment une pression, d'une part politique à la moitié du 19e siècle, et d'autre part des commerçants.
N'existe-t-il pas également des collusions, je pense typiquement également à tout ce qui concerne la santé? Parce que très souvent, dans moult campagnes, d'ailleurs par ailleurs partout dans le monde, on a vanté les vertus du lait comme cet apport de calcium nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, buvez du lait parce que si vous n'en buvez pas, vous serez en mauvaise santé. Le raccourci, c'était un petit peu ça qui était... Voilà. Alors j'ai l'impression qu'il y a... Effectivement, comme tu dis, moi je me souviens étant petit de la vache Milka. Hein, donc il était déjà, elle ne serait pas partie ensuite à l'écarissage. Elle aurait terminé son existence dans un pré extrêmement verdoyant, tout ça. Donc je me souviens très bien étant petit de cette propagande qui était faite autour justement du bien-être des vaches, notamment dans la production justement de lait, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, je me demandais s'il y avait également Voilà, ces recommandations sanitaires ne sont-elles pas également extrêmement prégnantes? Et du coup, est-ce qu'elles ne mettent pas beaucoup la pression selon vous? Parce qu'effectivement, dès lors qu'on vous dit, si vous n'en buvez pas, vous serez plus tard, vous aurez des déficits en calcium, ça peut effrayer les gens. Et du coup, hop, on boit du lait tout le temps, matin, midi, soir.
Alors oui, je vais y répondre. Oui, mais non, on a tous grandi évidemment avec l'idée qu'il fallait consommer 5 produits laitiers par jour pour être en bonne santé, pour avoir un bon apport de calcium. Ça fait quelques années maintenant que diverses personnes dans la santé sont en train de contredire ça à coup d'arguments. Et alors il y a des réponses de part et d'autre, les études se contredisent, mais quand même aujourd'hui on voit que ceux qui ont éliminé, donc ça a été mon cas aussi, parce que je disais que la démarche de la crèmerie est militante, que les animaux se situent au cœur de la démarche, mais on est arrivé, mon papa et moi, par la santé. C'est-à-dire qu'on était déjà végétarien à la maison depuis plus de 40 ans, moi depuis que j'étais enfant, mais on consommait des produits laitiers, on n'avait pas du tout fait le lien. Et c'est la santé qui nous y a amené. Moi j'avais un début de cancer, mon papa une maladie auto-immune. On nous a demandé d'éliminer le gluten et les produits laitiers. Effectivement, on a tout de suite senti une différence. Et on est arrivé au lien avec l'antispécisme quand on a vu que c'était en lien avec l'industrie et l'exploitation des animaux. Mais évidemment, quand on reçoit des gens à la crèmerie qui voudraient franchir le pas, il y a quand même des inquiétudes encore, et des fois on les rassure, on les renvoie simplement vers les bonnes personnes qui délivrent les bonnes informations pour pouvoir continuer.
Mais alors on peut dire qu'il y a encore un déficit d'information?
Ça, c'est quelque chose... Je pense que de plus en plus maintenant aujourd'hui, enfin de moins en moins, parce que de plus en plus de personnes justement franchissent le pas et voient qu'elles se portent toujours en bonne santé, qu'il n'y a aucun problème. S'il y a des carences, ce sont les mêmes que celles des omnivores. Donc, voilà.
Alors, si vous êtes d'accord, je n'ai pas commencé avec ça parce que c'était un petit peu trop évident, mais voilà, on va quand même préciser ces deux notions qui sont l'antispécisme, enfin spécisme, antispécisme et véganisme, pour peut-être préciser les choses. Et puis ensuite, pourrait-on, si vous le souhaitez, parler de votre propre transition personnelle? À quel moment est-ce qu'on se dit, je veux quitter ce type d'alimentation et ce type d'existence et passer d'une existence, disons, omnivore ou végé à cette posture et ces attitudes véganes et les contraintes ou pas qui iraient avec? Alors, antispécisme, spécisme, qu'est-ce qui aimerait s'exprimer par rapport à ça?
Je pense que Pia.
Alors, Pia, donc, on le rappelle, de l'Association pour l'égalité animale.
Oui, donc le spécisme, c'est justement l'idéologie que critique l'association, dénonce, essaye de démanteler l'association PEA pour l'égalité animale. Et le spécisme, c'est cette idéologie absolument violente qui consiste à croire qu'on peut exploiter et tuer des animaux uniquement sous prétexte que ce ne sont pas des humains et donc qu'ils sont d'une autre espèce que la nôtre. Donc l'antispécisme, c'est forcément cette idéologie qui s'oppose à ça et qui prétend qu'il faut prendre en considération la souffrance des animaux et de tous les êtres sensibles. Et c'est tout simplement en fait qu'il ne faut pas faire du mal à des individus qui ont la capacité de ressentir du mal. Ça a l'air tout bête comme ça et je ne sais pas pourquoi ça a l'air si révolutionnaire que ça, parce que ça me semble...
tomber sous le bon sens. Mais non, c'est tout à fait, complètement. Mais voilà, mais justement, c'est bien de le préciser, effectivement. Comment ça fait-il qu'on, naturellement, on n'aspire pas à ça, au fait qu'il y ait de moins en moins de souffrance? C'est une question qui est extrêmement... qui reste finalement un petit peu sans réponse encore.
Oui, non, c'est vraiment fou. Les gens me disent tout le temps, c'est extrême et tout. Bon, de toute façon, les gens sont allergiques au débat politique. Donc, dès qu'il y a la moindre petite conflictualité, ça fait extrêmement peur. Mmh. Et le fait que nous, on se situe sur un terrain qui est clairement politique, des fois, ça fait un petit peu peur. Mais quand on y pense, en fait, ce qu'on demande, c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment le strict minimum. C'est juste qu'on ne tue pas des animaux, étant donné qu'on peut ne pas tuer des animaux. Donc, franchement pas grand-chose, quoi. Mais voilà, effectivement, au-delà de cette simple demande, c'est vrai que nous, on la situe sur un terrain qui est exclusivement politique. En fait, on pense vraiment la question animale comme une question de société, comme une question de politique. Et puis la différence, pour en revenir au véganisme, c'est que le véganisme n'est pas tellement d'ordre politique ou sociétal, c'est vraiment une pratique de consommation individuelle qui découle probablement, en tout cas pour beaucoup de gens, ça découle d'une prise de position antispéciste. Donc il y a des liens évidents entre les deux, mais c'est pas la même chose.
D'accord. Malena, tu
veux commenter un peu? Oui, j'abonde totalement dans son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait se définir vegan sans être forcément antispéciste. Mmh. Donc la crèmerie aurait pu s'appeler crèmerie antispéciste. Le fait est qu'elle touche aussi à la santé, à l'économie, à tout ça. Donc on a décidé vegan. Et puis c'est un nom qui nous a échappé aussi par ailleurs, qui est sorti tout seul. Mais c'est-à-dire qu'on ne l'avait pas décidé. Et puis on s'est fait connaître avec ce nom. Mais oui, j'abonde totalement dans son sens. Moi-même, je me définis d'abord comme antispéciste avant d'être vegan. Et je suis vegan par conséquence.
Voilà, exactement. Consécutif. Voilà.
Exactement.
D'accord. On va revenir quelque peu dans ces fameuses images d'Épinal qui nous habitent et qui nous encombrent souvent. Alors voilà, il y a des animaux auxquels on ne penserait pas culturellement toucher. Les chats, les chiens, etc. Et il y a des animaux auxquels, selon, j'imagine que vous allez confirmer, mais peut-être démentir ce propos-là, mais des animaux auxquels on ne prête pas justement cette conscience de la douleur. Je pense notamment aux poissons. Est-ce que ça, c'est quelque chose effectivement que vous rencontrez lorsque vous discutez antispécisme en disant oui, mais les poissons, finalement, c'est OK, ça souffre pas, on les entend pas, ou voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces encombrements d'images d'Épinal et d'idées reçues dont il faudrait tordre le cou, auxquelles il faudrait tordre le cou?
Oui, il y a effectivement beaucoup d'idées reçues, mais aussi qui sont en grande part, je suis désolée de le dire, mais de la mauvaise foi, parce que souvent quand on nous rétorque « Ah, mais c'est de l'anthropomorphisme, les animaux, ils souffrent pas, là, là, là. » Mais d'un autre côté, on nous dit « Non, mais les animaux, ils sont heureux. » Et du coup, dire que les animaux sont heureux, c'est pas de l'anthropomorphisme, mais dire qu'ils souffrent, c'est de l'anthropomorphisme.
Bien
sûr. C'est vraiment un peu de mauvaise foi. Du coup, je pense que... Il y a beaucoup de choses qui ne nécessiteraient pas tellement d'être explicitées, mais que c'est juste que la société est braquée en fait sur ces questions-là, et que c'est des choses qui sont difficiles à remettre en question, simplement parce que ça fait des siècles et des siècles qu'on fonctionne comme ça, et que comme pour toute lutte, ça prend du temps de déconstruire certaines idéologies.
Très bien, très bien.
Je rebondis juste là-dessus.
Oui,
j'ai dernièrement eu un couple de clients qui venaient à la crèmerie et qui étaient très sensibles à l'antispécisme, mais qui mangeaient encore de temps en temps un peu de poisson parce que, comme disait la femme, ça ne va pas me tuer. Alors je me suis juste permise de lui dire, par contre, le poisson, lui, est mort. voilà, c'était juste... On en a beaucoup, effectivement, qui disent, j'ai arrêté la viande, je mange très, très peu de viande, de temps en temps un peu de poisson. Je pense qu'ils n'arrivent pas encore à prolonger la suite logique de la réflexion antispéciste jusqu'au poisson.
Mais c'est pour ça qu'on a lancé il y a 2 ans la campagne de la journée mondiale pour la fin de la pêche, parce que justement dans les milieux, même dans les milieux animalistes en fait, c'était extrêmement compliqué de parler de la question des poissons, parce qu'ils sont pas choux et ils ne ressemblent pas et ils ronronnent pas, et du coup on a décidé de lancer cette campagne justement parce que d'une part on voyait qu'il y avait vraiment un manque d'informations auprès du public, enfin les gens savaient pas vraiment en fait qui étaient les poissons, et voilà, dans quelle mesure ils peuvent ressentir de la souffrance, dans quelle mesure la pêche c'est une torture pour eux. Et du coup on a lancé cette campagne, ça fait 2 ans maintenant, on va entamer la 3e année, et l'idée c'est de rassembler un maximum d'associations animalistes autour du monde, autour de la question aquatique, en remettant au centre du débat les poissons, qui sont quand même les premières victimes du spécisme, puisqu'elles représentent le 98% des individus tués pour notre consommation.
Très bien, très bien. Je vous propose encore une ou deux petites questions et puis ensuite on reviendra au sujet spécifique à chacune de vous. Ça vous va comme ça? Mais c'est important, je pense, de tracer un petit peu. Alors, la question qui vient maintenant, c'est concernant vos trajectoires personnelles, en fait. Qu'est-ce qui vous a convaincu et qu'est-ce qui a déclenché le fait d'être vegan? Est-ce que ça a été des... Je dis ça parce que les personnes qui nous écoutent vont certainement peut-être se dire, mais et moi aussi, mais comment faire? Est-ce que voilà, je suis d'abord végétarien et puis on fait ça par palier? Est-ce que non, on met tout ça d'un coup d'un seul et puis les alternatives, elles existent concrètement? Voilà, enfin, dites-nous un petit peu votre trajectoire à vous. Je ne sais pas qui veut commencer. Pia, tu commences? Allez.
Moi je me souviens, il y a 6 7 ans, je faisais assez attention à manger de la viande que je croyais éthique. En fait, je mangeais que des produits de la petite boucherie à côté de chez moi et j'en étais toute fière. Et ça m'importait sincèrement, hein, les conditions d'élevage des animaux, mais c'est juste que j'étais ignorante en fait de ce qui se passait réellement. Et puis un jour, j'étais allée à un stand de Les Animalistes, qui est justement une des associations ancêtres de PEA, et j'ai dit ouais, mais les animaux ils sont bien traités et tout. Puis ils m'ont dit non. Et ils m'ont donné un documentaire qui s'appelle Derrière les portes. Vous le trouvez sur internet, il a été diffusé par la Fondation Marthe. Donc Derrière les portes a été créé en 2010 et justement ça montre les conditions d'élevage et d'abattage en Suisse romande. Alors bah moi je suis allée regarder et à la fin du documentaire j'ai dit bon bah moi je suis végane. Et c'était vraiment du tout au tout, j'avais pas du tout fait par palier ni rien. Simplement à la fin du documentaire il y a une image, il y a une vidéo d'abattoir en fait, et je sais que ça peut paraître un peu naïf, mais moi j'avais jamais réfléchi en fait à ce que ça voulait dire de mettre à mort un animal, et j'étais hyper choquée. C'était une vache qui était égorgée dans un abattoir, enfin c'était vraiment atroce. Et voilà, je me suis dit, je peux pas du tout cautionner ça. Notre société peut pas cautionner ça. Donc j'ai commencé dans un premier temps par moi-même être végane parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Enfin, quand on est révolté face à quelque chose, souvent, c'est bête, mais souvent ça nous vient pas à l'esprit tout de suite de militer. Et puis, alors que j'aurais pu militer directement. Mais d'abord, je suis devenue végane parce que j'avais l'impression que c'était ça qu'il fallait faire et que j'avais pas l'imagination pour militer tout de suite. Mais je regrette d'ailleurs, j'aurais voulu me mettre à militer tout de suite. Et un an après, j'ai commencé à militer chez Les Animalistes. Pour justement, en me disant, bah voilà, ça, pour moi, ça suffit plus de faire ce qu'il faut de mon côté, d'un point de vue tout à fait individualiste. Là, c'est vraiment une question politique, un problème de société. Il faut le prendre en main, comme tout problème politique, c'est-à-dire via le militantisme.
Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage du coup. Malena, et toi ?
Moi j'étais déjà végétarienne déjà depuis enfant, depuis l'âge de 11 ans, c'est arrivé vraiment petit à petit. Il y a eu la question d'abord de santé qui a fait que j'ai éliminé les produits laitiers, et puis tout d'un coup j'ai découvert l'industrie laitière, j'ai découvert les œufs, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter le cuir, j'ai défendu bec et ongles comme je pouvais les labels et les choses, et puis je me rendais bien compte que tous mes arguments ne tenaient absolument pas la route. Et il y en a qui pourraient se défendre, mais aujourd'hui actuellement avec 9 milliards, enfin bientôt on va vers les 9 milliards de personnes, personne ne peut exploiter les animaux, c'est absolument impossible sur un rapport même, quand bien même on voudrait prendre la peau d'un animal mort, c'est pas possible aujourd'hui. Si tout le monde voulait avoir son produit éthique, c'est pas possible. Et donc je suis, j'y suis allée vraiment par palier, progressivement. J'ai éliminé les œufs, puis tout ce que je pouvais éliminer, j'arrêtais d'acheter. Par contre, j'arrivais pas à jeter ce que j'avais, et puis je voyais pas la nécessité de jeter ce que j'avais. Et c'est une vidéo sur la laine qui a été déterminante, parce que on entendait tout le temps les arguments, la laine, on tue pas l'animal. Et quand j'ai vu que sur une vidéo, je crois qu'elle était diffusée par PETA, il y avait, on était en Australie et que je ne sais plus combien de pourcentage, mais plus de 90% de la laine industrielle provenant d'Australie vient de ces élevages-là. Quand j'ai vu que les animaux étaient entassés sur des champs entiers par milliers, là je me suis dit, on parle d'un besoin juste de la laine, on n'arrête pas de nous dire que l'animal n'est pas tué. Puis là j'ai saisi la notion d'exploitation. Tout d'un coup, c'était évident d'éliminer les œufs, le miel, enfin voilà. Et je suis tombée dans 3 mois de dépression qui était assez intense, parce que je découvrais le monde dans lequel je vivais. Je me disais, mais c'est ça, on m'a menti. Et là, ça a été extrêmement violent. Je me sentais, j'étais enfermée chez moi, je regardais des vidéos, j'essayais de m'imprégner de la réalité. Et c'est quand je me suis sentie impuissante face à tout ça, je me suis dit, je ne peux pas rester là en train de me morfondre dans ma chambre. Et j'ai contacté l'association L214, qui à l'époque commençait à diffuser justement toutes ces vidéos. Et PEA était pas loin de chez moi, mais je ne les connaissais pas encore. Et c'est L214 qui m'a renvoyée à PEA, où j'ai commencé à militer.
Très bien, donc comme quoi PEA a certes son utilité très concrètement.
Oh oui.
On peut pas. Ouais, non, mais j'en avais aucun doute. Mais c'était... Que répondez-vous justement aux personnes, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Pia, qui vont vous répondre, oui, mais moi je vais à la ferme de Budé, à la ferme du Lignon, je sais, il y a une traçabilité, les animaux, ces gens-là les ont quand même aimés, puis à un moment donné, on les quitte. Mais voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ça ?
Alors justement, c'est intéressant que tu parles
un
de ça, parce que
cool.
Justement, je te sors un tract que cachent les murs des abattoirs suisses. Si vous allez sur le site abattoir-suisse.ch au pluriel, c'est justement le site qui héberge nos deux enquêtes en abattoir. Et ce qui est intéressant avec ces deux enquêtes en abattoir, c'est que, surtout la première de l'abattoir d'Avenches, c'est un tout petit abattoir justement qui fournit pas du tout les grandes surfaces, mais qui fournit exclusivement des petites boucheries de quartier justement. C'est un petit abattoir qui tue seulement un jour par semaine des animaux, donc c'est pas du tout... c'est déjà trop, mais je veux dire, c'est pas ces immenses abattoirs qu'on diabolise volontiers juste pour sacraliser la viande de boucherie de quartier. Donc, en fait, malheureusement, c'est les meilleures conditions du monde. Et moi, j'ai regardé j'ai fait tout des recherches de ces vidéos, justement, avec des collègues militants. Et justement, il n'y a pas vraiment d'infraction à la loi. C'est fait de manière plutôt... clean, malheureusement, en fait. Enfin, malheureusement et heureusement, parce que ça nous permet justement de montrer comment sont tués les animaux, à quoi ça ressemble quand c'est les meilleures conditions du monde. Parce qu'effectivement, en Suisse, on se targue souvent d'avoir les lois de bien-être animal les plus strictes du monde. C'est pas si faux, concrètement. Si les gens ont envie de... me disent que les animaux sont bien traités, là, on voit que dans cet abattoir, les animaux... ils sont tués quand même. Et ils résistent, ils tremblent de peur, ils essayent de s'échapper par tous les moyens, ils grimpent contre les murs, ils hurlent. Enfin, c'est vraiment des images qui sont très fortes. Moi, ça m'a beaucoup touchée de voir ça, qu'il n'y avait pas besoin en fait qu'il y ait une maltraitance explicite avec des gens qui frappent sans nécessité et tout. Je veux dire, c'est une situation qui est stressante. Les animaux voient des cadavres s'entasser devant eux. Et ils finissent par être égorgés. Donc à aucun moment on peut prétendre qu'égorger un animal, c'est pas de la maltraitance animale. Mmh.
Clairement.
Pourquoi je dois préciser ça ?
C'est comme ça. Ouais. Concernant, si jamais des questions émergeraient autour de nous, c'est le moment, parce qu'après on va passer justement au projet spécifique, mais j'en aurais une moi également concernant les abeilles, parce que là aussi souvent on se dit mais le miel, déjà ça a des vertus indéniables, voilà, en plus c'est bon, et puis les abeilles, on leur fait des petites maisons, ça va, nanana. Alors,
j'ai juste envie de dire, dans le doute, abstiens-toi. C'est-à-dire que quand bien même on pourrait expliquer, justifier, si on a un doute, tout comme pour, les moules, je crois, qu'on peut manger aussi, parce que paraît-il, le système nerveux. Moi, dans le doute, je ne sais pas ce que la science va me révéler encore dans quelques années. Dans le doute, je m'abstiens et tout ce qui concerne le règne animal, je n'y touche pas.
D'accord.
Oui, je pense qu'effectivement, la question des abeilles, du miel, des abeilles, c'est pas très facile, parce que c'est justement là où on touche à une question qui est intéressante à propos de l'antispécisme et que tout le monde se pose, c'est où on place la limite.
Le curseur, ouais.
Donc c'est une question qui est légitime, qu'on nous pose régulièrement et qui vaut la peine d'être explorée. Alors justement, d'un point de vue de l'antispécisme, on s'intéresse à tous les individus qui ont la capacité de ressentir de la souffrance, donc de la sensibilité. Maintenant, le problème, c'est que la science ne nous a pas tout dit sur toutes les espèces animales, et il se trouve que pour pas mal d'animaux, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est du point de vue de leur sensibilité. C'est le cas des abeilles, ça me semble extrêmement peu probable que les abeilles ne soient pas des animaux sensibles, mais c'est pas impossible, et en tout cas pour l'instant on n'a pas de preuves scientifiques à ce propos. Donc effectivement, comme Malena, je dirais aussi dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Mais voilà, c'est aussi que c'est des questions qui restent en suspens en fait, et je trouve que c'est plutôt... c'est aussi assez constructif de rester dans cette optique où on sait qu'il y a des questions qui restent ouvertes, qui doivent être réexplorées.
Ça nous engage justement à prendre connaissance, à s'intéresser et puis justement à se poser des bonnes questions, être curieux et puis se renseigner, s'informer.
Absolument. Dernière petite question avant la transition également ici. Concernant, alors que répondez-vous aux personnes qui parlent de régulation, du fait de cette consommation animale permet de réguler des choses, permet que certains animaux, là je parle plutôt pour la chasse, du coup ne pullulent pas. Est-ce que ça c'est un argument que vous entendez? Enfin, qu'est-ce que vous en... Que répondez-vous à cet argument-là?
Tu veux y répondre?
Il y a une question. C'est une question
oui, on nous a apporté une question dans l'internet.
Comment on voit son chien? Ah, vous voulez répondre?
Moi, je peux y répondre parce
La question est, c'est vous, madame, qui voulez-vous la poser au micro ou je la pose pour vous ? D'accord. Alors, la question, en tant que végane, comment nourrir son chien ? Ou son animal domestique, chien, chat, tout ça.
Alors j'y réponds volontiers parce que je vis effectivement avec deux chiens. Deux chiens vivent chez moi et il y en a un qui est là depuis 10 ans qui mange de la viande. J'ai essayé de le faire passer à une alimentation végétale, il refuse, donc je ne l'y force pas. Donc vraiment à très grand contre-cœur, je vais acheter des chutes de viande pour le nourrir. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision qu'après mes chiens, je n'aurai plus d'animaux pour les nourrir avec de la viande. La deuxième, par contre, que j'ai adoptée l'année dernière, elle accepte beaucoup plus facilement les végétaux et donc j'envisage effectivement de la passer à une alimentation végétale. Tant qu'on peut le faire, si l'animal accepte, il n'y a aucune raison pour moi de s'y opposer et tant qu'ils sont omnivores, ils sont exactement comme nous, ils peuvent consommer vegan. Il est plus problématique par exemple pour des chats ou pour d'autres animaux qui sont vraiment carnivores, alors là on peut s'interroger. Tant qu'on n'a pas de solution, on fait au mieux pour diminuer les souffrances. Cela dit, je mise beaucoup et je mets beaucoup d'espoir dans la viande in vitro qui serait, c'est pas l'idéal, mais c'est ce qui causerait le moins de souffrance et ce qui apporterait le plus d'éthique. C'est-à-dire que si moi je vais au supermarché et que je peux acheter un produit qui allie l'éthique et les progrès scientifiques, je n'hésite pas une seconde. Donc je pose beaucoup d'espoir dans la viande in vitro pour les mangeurs de viande et pour les animaux qui sont carnivores. Mais pour les autres, s'ils acceptent l'alimentation végane, il ne faut surtout pas s'y opposer. Et au contraire, aller abonder dans ce sens-là, je pense.
Ça a répondu à votre question ?
Tout à fait.
Ah bah voilà. Pourrais-tu préciser, viande in vitro, qu'est-ce donc ?
C'est de la viande en fait qui est, c'est une culture de viande en fait. Alors pour le moment, on a encore besoin, je crois. Je connais pas très bien l'évolution scientifique par rapport à ça. Je sais qu'il est question, c'est pour éviter de tuer les animaux, donc on fait de la fausse viande à partir d'une cellule de viande existante. À l'origine, il y a quand même un animal qui est mort, mais bon, avec, vu le nombre de cadavres actuellement qui sont tués, je pense qu'en
fait,
il y a quelque chose, en tout cas, moi personnellement, je n'en ai pas besoin, mais je pense que c'est une solution qui peut permettre une avancée éthique.